Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Et dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, on débattra sur la réforme que vient de proposer le président du Sénat pour rapprocher davantage les Sénats des assemblées provinciales. Alors cette réforme, comme je l'ai dit, selon le président du Sénat, vise à rapprocher davantage le Sénat et le gouvernement provincial, car on ne peut pas parler de la question de la gestion donc des provinces sans que le Sénat y soit associé. Aussi, de permettre aux parlementaires d'avoir un regard sur le développement de leur région. Alors, comment analysez-vous cette démarche de la réforme du Sénat proposée par Modeste Bahati? Et si vous désirez donc intervenir dans cette émission, vous pouvez commenter en nous appelant directement au 0 81 890 63 30 ou encore au 0 81 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net ou encore commenter ce sujet sur notre page Facebook. Également, très clair sur cette question. Et Jocelyne Mukendi concours à la production de cette émission réalisée et produite par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Kalo Kalonji, vous êtes en Mbujimayi, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur J.R. et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Alors, comme je l'ai dit, le président du Sénat, Modeste Bahati, a annoncé une réforme à opérer qui portera sur les liens entre la Chambre haute du Parlement et les assemblées provinciales dont le Sénat en est l'émanation. Alors, trois préoccupations. Quelle en est l'opportunité? Est-ce qu'y a-t-il des obstacles d'une telle réforme? Et enfin, est-ce que ça énerve aussi la loi sur le libre fonctionnement des provinces?
Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Moi, je pense que ça énerve d'abord, c'est la loi sur la libre administration des provinces. Vous savez que au niveau de la province, le contrôle est assuré par les assemblées provinciales. Et vous devez aussi connaître que si aujourd'hui nous parlons de la décentralisation chez nous, ce n'est pas une décentralisation pure dans le vrai sens, mais c'est une décentralisation finie. Au fait de voir encore, il y a le contrôle au niveau de la province. Et cela aussi n'empêche pas, parce que vous allez remarquer, si nous parlons aussi de développement aujourd'hui dans nos provinces, il faut aussi voir, est-ce que vous pouvez me dire réellement, aujourd'hui là, est-ce que réellement nos provinces peuvent avoir des ressources propres pour booster leur développement? Parce que quand vous voyez la fréquence d'abord des rétrocessions, voir aussi les budgets d'investissement, vous allez vous rendre compte que c'est au niveau central que ces histoires s'y bloquent. Et moi, je me dis, aujourd'hui, si Modeste Bahati pose le problème de voie de réforme au niveau que le Sénat commence maintenant à s'ingérer dans les histoires des provinces, moi, je trouve qu'il est en train d'aller au-delà. Il s'est énervé aussi la loi. Mais moi, je pense, d'ailleurs, de tout ce temps ici, nous autres, nous pensons que c'est le Sénat ici qui devrait être supprimé, parce que l'existence des deux chambres, moi, je le vois pas. C'est un double travail que l'Assemblée nationale est en train de faire. Mais aujourd'hui, s'il pose de tels problèmes, moi, je suis contre. C'est-à-dire ici, on doit laisser les assemblées provinciales faire leur travail. Et s'il y a des avis actuellement, il faut reconnaître que ce sont toujours les sénateurs. Là, moi, j'ai des cas ici chez nous, à Mbujimayi et au Kasai Oriental. Ce sont les sénateurs là qui sont à la base de tout ça. Tout ce qui se passe ici, c'est diligenté par le gouvernement central qui cherche toujours à tirer le profit auprès de ce qu'ils ont mis au niveau de la province, que ce soit au niveau de l'Assemblée, que ce soit au niveau de l'exécutif. Tout ça, c'est toujours dirigé par l'extérieur, c'est-à-dire au niveau central. Mais s'ils parlent comme ça, moi je trouve qu'il y a autant de réformes qu'on doit faire dans d'autres secteurs, mais ils doivent laisser la loi sur la libre administration des provinces travailler normalement. Ici, ils doivent laisser les provinces libres. C'est ça ma contribution, mais c'est juste ça, c'est énerver encore les esprits de nous autres. On doit supprimer d'abord le Sénat, là. Oui. C'est ça ma préoccupation. Mais qu'on supprime le Sénat. Il fait quoi là-bas? C'est pourquoi moi, je suis en train de soutenir Steven Dikaï qui avait parlé de supprimer le Sénat. Supprimer aussi les conseils d'État, d'économie et d'État. C'est-à-dire, ce sont des institutions qui nous bouffent l'argent pour rien. Si cet argent qui entre dans le Sénat, s'il était dirigeanté vers le développement des provinces, moi, je trouve que ça va aller. L'émanation du province, ça c'est trop. Tout le monde connaît que le Sénat et les menaçons des assemblées provinciales, mais qui doit laisser réellement les provinces travailler dans l'autonomie normale.
Donc si je comprends bien, pour vous, vous sentez que les assemblées provinciales, au fait l'exécutif provincial souffre aujourd'hui parce qu'il ne sait pas prendre de l'élan faute des moyens mis à leur disposition par le gouvernement central.
Effectivement, mais c'est, regardez vraiment la fréquence d'abord des budgets d'investissement et la rétrocession. Vous allez vous rendre compte que toute une année passe comme ça, on ne rétrocède même pas. D'abord la façon dont on donne et le budget d'investissement. Comment nos provinces, d'ailleurs les nouvelles provinces ici, ils ont quelles ressources pour booster leur économie? C'est au niveau central. Elles doivent contrôler seulement les gouvernements. Si le gouvernement est contrôlé réellement, régulièrement, avec une manière de les pousser, de les orienter à pousser l'économie et le développement des provinces, ça sera bien. Mais leur objectif, c'est quoi? On contrôle, c'est pour sanctionner, c'est pour tirer profit. Quand vous appelez un ministre, vous lui posez les problèmes, vous l'orientez. Voilà, ici nous nous trouvons que vous devez faire ça, vous devez faire ça. Il peut comprendre et pousser aussi les provinces dans leur développement et décollage.
Voilà.
C'est ça, monsieur, ma contribution.
Merci beaucoup, Kaloji, d'avoir appelé Dembujimaï. Là, vous posez également la question sur les difficultés que le pays rencontre dans la mise en place de la décentralisation dans tous ses aspects, notamment au niveau des provinces. Vous souhaitez plutôt que le Sénat soit supprimé au lieu qu'on puisse rapprocher davantage le Sénat des assemblées provinciales, quoi que en soit l'émanation. Merci beaucoup, Kaloji, d'avoir appelé. Alors, on va prendre Pierre Moussafiri. Vous êtes à Goma. Bonjour. Quelle est votre réaction? Êtes-vous également contre, comme l'a dit Kaloji?
Bonjour, Gér. Bonjour, Madame Jocelyne. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Votre position, Pierre?
D'accord, merci, Gér. Moi, je dirais que d'abord, c'est l'annonce de Modeste Bahat qui vient énerver la loi sur la libre administration des provinces. C'est vrai, le Sénat est l'émanation des assemblées provinciales. Personne n'est contre. Mais par rapport à l'annonce du président de la Chambre haute du Parlement, dit Chambre des Sages, qui est de renforcer les liens entre le Sénat et les assemblées provinciales, je pense que cette question n'est pas nécessaire et n'apportera rien de spécial dans la gestion de nos provinces côté développement, parce que le Sénat n'est pas le chef pour s'assurer que les choses vont bien dans les provinces. Et l'administration libre des provinces est garantie par la Constitution. Au contraire, moi je pense que derrière cette réforme, on peut y avoir quelque chose d'intérêt que l'on veut chercher à créer et entre les assemblées provinciales et le Sénat. Et une fois que cela n'est pas faite comme les uns ou les autres le souhaitent, ça devient des conflits entre le gouvernement des assemblées provinciales et le Sénat. Et j'aimerais savoir si le Sénat est associé dans la gestion des provinces en tant que qui et qui est son rôle, pour alors confirmer qu'on ne peut pas parler de la gestion des provinces sans que ces derniers y soient associés. Mais aussi, est-ce que c'est aujourd'hui que le Sénat veut avoir un regard sur le mouvement des provinces et de ses entités? Et moi, je pense que jusqu'ici, Modeste Bahat est libre de faire cette annonce, mais ce n'est pas nécessaire pour le moment. Parce que l'administration des provinces est garantie par la Constitution. On doit laisser les provinces faire leur travail à travers les assemblées provinciales, trouver des solutions aux problèmes que les provinces traversent. Ce n'est pas au Sénat de venir s'ingérer dans les affaires. C'est ça ma contribution, M. Gier.
Merci beaucoup, Pierre Moussafiri. Et vous êtes également contre, comme Kalo. Est-ce que Edmond, par rapport à la loi, et Maître Edmond, vous êtes à Mbandaka. Bonjour, Maître Edmond.
Bonjour, mon ami Gier, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Café.
Alors, comment analysez-vous cette démarche de la réforme du Sénat proposée par Modeste Bahati?
Merci beaucoup, M. Gier. Je pense que j'ai pu suivre nos amis qui viennent de me précéder. Je pense que s'il faut supprimer, ce n'est pas le Sénat. S'il faut supprimer réellement les assemblées provinciales. Parce que si aujourd'hui nous avons des problèmes au niveau de nos exécutifs provinciaux, c'est à cause des assemblées provinciales. Et aujourd'hui, si le Sénat, qui est de l'émanation des provinces, qui ont été votés par les assemblées provinciales, essaye un peu de réformer cette relation, essaye un peu de consolider la relation qui peut exister entre le Sénat et les assemblées provinciales, ça serait une bonne chose. Monsieur Jean, je vous dis que au niveau des provinces, les assemblées provinciales fonctionnent en solo. Donc, d'une manière comme si après les assemblées provinciales, il y a que Dieu, il y a pas d'autres autorités nationales, d'autres autorités publiques. Voilà pourquoi moi je suis en train vraiment vivement d'appuyer l'honorable président du Sénat à pouvoir accélérer ces réformes. Donc les assemblées provinciales, désormais, dès que les réformes seront réellement prises en compte, devront également rendre compte au niveau du Sénat. C'est tout à fait normal. Ce qui se passe en province, c'est terrible. Aujourd'hui, si les exécutifs provinciaux sont déchirés, il n'y a pas de développement au niveau des provinces.
Oui, oui, mais maître Edmond, quand vous dites que finalement les assemblées provinciales fonctionnent en électron libre, mais on sait que tous les problèmes qu'il y a eu au niveau, dès qu'on a, on s'est lancé dans la décentralisation, et ces problèmes au niveau des assemblées provinciales ou au niveau des provinces ont été gérés par les ministères de l'Intérieur, soit par des humeurs ou soit par l'esprit et la lettre de la Constitution. Mais cela n'a toujours pas donné des résultats. Si aujourd'hui, comme vous l'avez dit, que le Sénat veut s'inviter dans l'affaire, vous pensez réellement que ça pourrait donner une solution?
Oui, oui. Monsieur Gérard, moi je pense que ça pourrait donner une solution. Parce que même au niveau des provinces, bien sûr, que nous sommes dans le principe de la libre administration des provinces par rapport à la loi numéro 08/012. Je pense que la libre administration des provinces. Mais également, au niveau des provinces, nous avons l'autorité, le VPM de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur. Également, je voudrais qu'on puisse essayer un peu de discuter. Je souhaite que la tutelle du gouverneur des provinces, par exemple, soit exercée par le VPM de l'Intérieur, mais la tutelle de l'Assemblée provinciale soit gérée par le Sénat, soit gérée par le Sénat. Parce que c'est vraiment inconcevable que nous puissions avoir des instabilités au niveau de nos assemblées, de nos provinces, c'est à cause des députés provinciaux. Moi, je vous dis, c'est moi l'Équateur, je pense que vous suivez l'actualité, c'est l'Assemblée aujourd'hui qui est à la base de la déstabilisation de la province de l'Équateur, par exemple. Pourquoi? Parce que l'Assemblée s'est dit que au niveau de Kinshasa, je n'ai pas une autorité qui peut me surveiller, qui peut me contrôler.
Et nous avons même vu lors des consultations des gouverneurs qui sont allés voir le chef de l'État pour lui demander de s'impliquer personnellement afin de sauver leur peau contre l'émotion dont ils font l'objet au quotidien. Parce qu'il y a un vide d'autorité.
Oui, c'est exactement ça. Les gouverneurs ont raison, ce sont des motions monnayées, ce sont des motions qui sont là juste pour enrichir les députés provinciaux. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'on puisse avoir un certain regard au niveau des assemblées provinciales et que le Sénat, qui est l'émanation des assemblées au niveau national, que le Sénat soit l'autorité des tutelles, et à chaque fois qu'il y a des bévues, il y a des cas graves, comme ça le Sénat pourra quand même décider. Le Sénat ne peut pas entrer dans le matière exclusive de la province, mais le Sénat peut quand même réguler certains faits qui peuvent entamer le fonctionnement de la province. Je pense que c'est tout à fait normal et nous devons quand même encourager une telle initiative.
Merci beaucoup Maître Edmond d'avoir appelé de Mbandaka et de nous avoir, disons, vous souhaitez qu'on puisse disséquer la tutelle hein, dans l'exécutif provincial, notamment que la tutelle de gouverneur soit assurée par les ministres de l'Intérieur et la tutelle de l'Assemblée provinciale revienne normalement au Sénat. Donc vous soutenez cette réforme, contrairement à vos deux prédécesseurs. Alors, nous allons accueillir professeur Toegano, qui est député national. Professeur, vous êtes avec nous?
Oui, oui, je vous écoute, mon cher ami.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'opportunité d'une telle réforme, de pouvoir rapprocher le Sénat de l'Assemblée provinciale?
Il faut d'abord vous dire que l'opportunité n'est pas discutable. Donc, toutes les institutions de la République, qu'elles soient nationales ou provinciales, doivent concourir à la réalisation de la mission de l'État. Elles doivent travailler de commun accord pour que l'État, la République, puisse accomplir correctement sa mission. Il n'y a pas de frontières rigides entre les institutions de la République, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Et la Constitution de la République, justement, c'est doit être notre boussole. C'est elle qui doit tout guider. Je salue le souci qui anime l'honorable président du Sénat et Le souci est partagé par la communauté nationale. Nous avons constaté beaucoup d'abus dans le fonctionnement des assemblées provinciales. Elles ont été plus actives dans les motions contre l'exécutif provincial, mais sur le plan de la production législative, sur le plan des services à rendre à la population, en tout cas, le rendement a été très faible. Alors, est-ce que on peut créer une passerelle en termes, je ne sais pas, ça sera dans quel sens, entre le Sénat et les assemblées provinciales? Oui, le Sénat est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Ça, nous le savons, le Sénat est constitué des élus, mais la Constitution ne laisse pas, en tout cas, telle qu'elle se présente aujourd'hui, la Constitution ne laisse pas la possibilité au Sénat d'avoir un droit de regard sur le fonctionnement des assemblées provinciales. Si une telle réforme doit avoir lieu pour permettre au Sénat de veiller au fonctionnement des assemblées provinciales, cette réforme aura comme préalable la révision de la Constitution, qui doit établir des principes en cette matière. Mais tant que la Constitution reste telle qu'elle est aujourd'hui, je ne vois pas par où passerait cette réforme. Donc, la réforme, il y a nécessité, parce que on doit évaluer, depuis 2006, on doit évaluer où est-ce que la formule actuelle de gestion des provinces nous a conduit. Une évaluation vaut la peine, mais je pense que s'il y a des réformes à introduire dans le sens souhaité, ces réformes impliquent au préalable la révision de certaines dispositions de la Constitution pour permettre que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent adopter des lois allant dans le sens de réguler correctement le fonctionnement des provinces.
Alors, parmi, disons, les préalables, il y a un auditeur qui venait de proposer tout à l'heure, si jamais une telle réforme devait avoir lieu, il faut penser à disséquer ou à dissocier la tutelle du gouverneur et la tutelle de l'Assemblée provinciale. À la première, on attribuerait la tutelle au ministre de l'Intérieur, mais tandis que la tutelle de l'Assemblée provinciale reviendrait ipso facto au Sénat. Est-ce que vous partagez cet avis, professeur?
Mais c'est très difficile qu'on puisse envisager les choses de cette manière-là. D'abord, le constituant a voulu à ce que nos provinces puissent jouir d'une personnalité juridique propre et d'une autonomie de gestion, sur le plan politique, sur le plan administratif, sur le plan financier et économique. Alors, et puis lorsque vous lisez l'article phare de la Constitution, le 220, il n'est pas autorisé une révision de la Constitution qui puisse aller dans le sens de réduction des prérogatives attribuées aux provinces. Vous voyez, beaucoup de Congolais ne retiennent de cet article que le mandat du président de la République.
Tout à fait.
Le nombre et la durée. Mais or, cet article-là est très riche. On parle notamment des compétences reconnues aux provinces.
De compétences exclusives.
Le pouvoir central ne peut pas se permettre de limiter. Et puis, la notion de la tutelle. En fait, dans la formule actuelle de la gestion de nos provinces, c'est une notion qui n'a pas sa place. On parle de la tutelle dans une simple décentralisation. Et les provinces seraient soumises à la tutelle de l'autorité qui a la gestion de la territoriale dans ses attributions. Mais à ce niveau-là, on parlerait des organes de la province. Mais lorsqu'on parle des institutions provinciales, la notion de tutelle n'existe pas dans un constitutionnalisme provincial. Cette notion n'existe pas. Mais telle que le ministre de l'Intérieur se comporte vis-à-vis des provinces, mais dans la plupart des cas, ce comportement constitue purement et simplement une violation de la Constitution. Et on ne peut pas non plus parler d'une tutelle de l'Assemblée, donc du Sénat, sur les assemblées provinciales, ça serait un autre sens. Donc, le Sénat n'a pas cette prérogative. Le Sénat est une chambre du Parlement congolais dont les missions sont clairement définies. C'est voter les lois, contrôler le gouvernement et les services publics de l'État. Mais le Sénat, je ne vois pas comment il peut s'arroger les prérogatives d'exercer la tutelle sur une institution politique provinciale.
Qui jouit de son autonomie.
Une large autonomie politique.
Alors, professeur, d'aucuns aimeraient un peu savoir qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que l'Assemblée provinciale ne fonctionne pas comme on l'observe ces derniers temps en électron libre. Nous avons vu même des gouverneurs venir pernicher devant le chef de l'État pour demander à ce que les chefs puissent s'impliquer personnellement afin de les sauver contre les motions intempestives de défiance.
Oui, il faut d'abord vous dire que on a fait ce constat en 2011. Lorsqu'on a procédé à la révision de la Constitution en 2011 par les deux chambres du Parlement, on a reconnu au président de la République de constater une crise. Lorsqu'une crise persistante avérée bloque le fonctionnement de l'une des institutions, ça peut être le gouvernement provincial, ça peut être l'Assemblée provinciale, le chef de l'État a la prérogative constitutionnelle, après consultation des bureaux des deux chambres du Parlement, donc le chef de l'État peut soit dissoudre l'Assemblée provinciale ou soit dissoudre le gouvernement provincial. Ça, c'est de un. Et puis, les assemblées provinciales, en réalité, ne sont pas des électeurs libres. Il y a un contrôle qui est prévu par la Constitution et les textes légaux. C'est très qu'on exerce par le contrôle juridictionnel.
Okay.
Vous voyez, les cours des tribunaux devaient être un peu beaucoup plus regardants sur ce qui se passe dans les provinces. Et aujourd'hui, avec la redynamisation des organes ou des services tels que l'inspection générale des finances. Donc, il n'y a pas de barrière pour contrôler le fonctionnement sur le plan financier de l'Assemblée provinciale. Mais lorsque les abus sont constatés, en fait, on doit porter ces abus au niveau des cours des tribunaux compétents pour statuer et peut-être remettre l'organe délibérant sur la ligne afin d'éviter les dérapages qu'on est en train d'observer chaque jour. Donc, le contrôle qui est aujourd'hui admis dans la formule actuelle de notre Constitution, c'est le contrôle juridictionnel. Mais je pense que s'il y a un contrôle du gouvernement central sur les provinces, cela s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation, étant donné que les gouverneurs de province sont les représentants du gouvernement central. Et au niveau des assemblées provinciales, en réalité, les membres du gouvernement n'ont aucun contrôle à exercer
sur les assemblées.
Les actes de l'assemblée provinciale. Tout ce qui se fait aujourd'hui, surtout avec le ministère de l'Intérieur, constitue des violations pures et simples de nos textes constitutionnels et légaux.
Voilà. Alors, juste une dernière question avant de vous libérer, parce que vous avez d'autres charges, professeur. Vous nous avez accordé juste ces moments. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, le rôle que joue aujourd'hui le Sénat doit rester consultatif?
Bon, le Sénat n'a pas un rôle purement consultatif. S'il y a un organe consultatif, c'est
par rapport
le Conseil économique et social.
Par rapport aux assemblées professionnelles.
Le Sénat est une chambre du Parlement. Hein. C'est une composante du Parlement. Et le Parlement, sa mission est clairement définie. Le Sénat, bien qu'étant l'émanation des assemblées provinciales, le Sénat participe activement à l'élaboration et au vote des lois de la République.
Tout à fait.
Le Sénat participe activement au contrôle du gouvernement central et au contrôle des services publics de l'État, des établissements publics de l'État. Donc, son rôle n'est pas purement consultatif. Le Sénat agit comme toutes les chambres du Parlement. C'est vrai que, comparé à l'Assemblée nationale, c'est vrai que l'Assemblée nationale a d'autres prérogatives qui ne sont pas reconnues au Sénat. Mais le Sénat agit comme une chambre législative.
Voilà, merci beaucoup professeur Théogado d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et juste apporter cet éclairage par rapport à l'opportunité de cette d'une telle réforme. Et vous l'avez si bien dit, en tout cas, vous ne voyez pas avec quel mécanisme, parce que il va falloir trouver des faire sauter d'abord les préalables. Le préalable, c'est la révision de la Constitution. Et pourtant, l'article 220 n'autorise pas la révision des dispositions qui donne des prérogatives aux provinces. Merci beaucoup. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous poursuivons Parole aux auditeurs avec vous, Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, et Jérémy à Lubumbashi. Marie-Paul, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bienvenue, bonjour monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez suivi les uns les autres, quelle est votre réaction? Êtes-vous d'accord qu'il y ait une telle réforme pour sauver les provinces, avec tous les éléments que vient de révéler le professeur Théogado? Est-ce que vous ne partagez pas l'avis d'Edmond qui a dit, bon, voilà, soutenons cette réforme proposée par Modeste Baati, le président du Sénat?
Oui, moi je pense que je soutiens cette annonce-là pour la simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on cherche à renforcer les liens entre les Sénats et les assemblées provinciales, et c'est l'une des dispositions constitutionnelles, et je ne vois pas qu'il y a violation là-bas, parce qu'on doit renforcer quand même cette capacité. Et aussi, cela va constituer une aubaine pour les provinces, parce que nous savons quand même que dans les provinces nouvellement installées, même par rapport à d'autres provinces, il y a quand même un problème de gouvernance. Et ces assemblées-là n'exercent pas vraiment une gouvernance dans le sens de pouvoir booster les choses pour aller au développement. Alors, sur le Sénat, qui est aussi une des chambres du Parlement, va peut-être mettre en place une politique et de renforcer les capacités. Parce qu'on peut ici, on ne peut pas passer par la voie constitutionnelle. On peut organiser des séminaires, mais comme c'est le président du Sénat qui a fait, le Sénat peut se donner des moyens parce qu'il y a quand même un budget pour le Sénat, en fait de pouvoir accompagner les élus provinciaux dans les attributions constitutionnelles. Je ne vois pas, voilà pourquoi d'ailleurs les institutions, comme nous le savons,
la question, Marie-Paul, ce lien qu'on va établir passera par quoi concrètement? Est-ce que ça sera juste à titre consultatif ou bien il aura réellement un rôle de contrôle qu'il a déjà en tant que chambre du Parlement?
Oui. Oui, selon la logique, comme j'ai entendu l'honorable président du Sénat dire, il n'y a pas un contrôle au sens premier du terme. C'est un processus d'accompagnement. Et c'est un processus d'accompagnement dans le sens de pouvoir aider les assemblées provinciales à exécuter réellement les attributions reconnues par la Constitution. Et c'est comme des séminaires de renforcement. Ici, les sénateurs ne vont pas venir faire ce que fait, et non pas aussi faire ce que les institutions judiciaires provinciales peuvent faire. Non, ici il s'agit d'un processus, d'une logique un peu de la manière dont les assemblées provinciales sont jurées, et le Sénat à travers ses sénateurs veut renforcer les capacités. Et voilà pourquoi moi je dis que c'est une aubaine. Parce que s'il y a l'accompagnement du Sénat avec les assemblées provinciales, c'est salité. Ça va faire que les élus provinciaux puissent peut-être implémenter un peu les capacités managériales. Et ces capacités-là vont leur permettre justement de rafraîchir ou de donner des édits qui permettent à ce que les provinces avancent. Parce que depuis la décentralisation et depuis qu'on a installé les nouvelles provinces, il y a quand même un laisser-aller, il y a quand même un désordre. Et ce désordre fait transparence que les élus, les assemblées provinciales ne maîtrisent pas réellement les attributions, ne maîtrisent pas leur rôle. Et ce qui nécessite le renforcement des capacités, je ne vois pas la violation de la Constitution. Et voilà, à mon sens, je trouve que ce qu'il faut dans un premier temps, c'est de mettre une politique à là dans naissance, justement, comme je viens de le dire, de renforcer les capacités des députés, des assemblées provinciales. Et c'est par ces renforcements des capacités, on va voir que les assemblées vont exécuter les rôles constitutionnels conformément à la libre administration des provinces. Et ça va aussi, ça sera aussi une occasion pour ces assemblées-là de pouvoir réellement s'imprégner des bien fondés de la décentralisation, et cela va permettre que nos provinces, nos gouvernements provinciaux puissent renforcer les liens de développement ou booster le développement que nous cherchons. Parce que les provinces se comportent comme dans les contextes anciens. Et c'est comme si les provinces, les assemblées continuent à faire allégeance automatique ou totale vis-à-vis des institutions centrales. Non, il y a quand même cette libre administration, il y a quand même l'autonomie qu'on a reconnue aux institutions provinciales. Et si, comme nous le constatons, qu'il y a quand même ce manque-là de maîtrise de toutes ces attributions, je pense que l'annonce du président du Sénat tient quand même route.
Tiens, son
sénateur arrive à accompagner l'Assemblée. Je ne vois pas une violation des constitutions. Donc je soutiens cela, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs. Quelle est votre réaction, Jérémy?
Oui, bonjour monsieur JR, bonjour également à des millions d'auditeurs de la radio de la paix. D'entrée de jeu, je salue de vive voix l'initiative de grande envergure d'ailleurs portée par l'honorable sénateur Modeste Bahati, même si les motivations cachent, on ne savons pas ce que cachent les motivations. Bien sûr, liant, donc c'est-à-dire qui entre dans les registres de réforme, liant les Sénats et les assemblées provinciales. Il faut aussi signifier, M. Gier, que si l'on s'en tient au prescrit de la loi Brevard au Sénat, n'est-ce pas, de s'exercer, donc de passer à cet exercice, alors, moi, je me dis que c'est là que maintenant revient la problématique dont nous avons toujours évoqué, qu'il fallait nécessairement que les sénateurs passent directement lors de leur vote au suffrage universel direct, parce que ils auront un peu du crédit, parce que vous savez, lorsque les députés nationaux sont élus par le peuple que nous sommes, ça veut dire qu'ils sont redevables vis-à-vis de nous. Il en est de même. Autant que les députés nationaux rendent compte à la population qu'il a élu, qu'ils les ont élus, il en est de même aussi pour les sénateurs, parce que ce sont les députés provinciaux qui exercent le vote et qui passent au vote. Ça veut dire qu'ils sont redevables. Maintenant, là, je me pose la question. Parce que ce sont les députés provinciaux qui contrôlent la gestion de l'exécutif. Et je me pose encore une autre question, de savoir, est-ce qu'on ne va pas assister à un chevauchement si les choses ne sont pas correctement bien élaborées? Parce que on ne peut pas avoir deux institutions pour un seul objectif, n'est-ce pas là? On peut voir les sénateurs qui descendent de Kinshasa pour venir contrôler l'exécutif, parce que lorsqu'ils sont en lien, en mèche, avec les assemblées provinciales, dans la manière de contrôler, parce que lorsqu'ils se lient, c'est pour contrôler l'exécutif provincial. Or, l'exécutif provincial ne peut être contrôlé par les assemblées provinciales. Un point, point barre. Alors, là, je me dis que ces réformes, certes, elles sont le bienvenu, mais il faut, n'est-ce pas, s'en remettre à la Constitution, qui est la seule boussole, qui doit nous dire ce que l'on doit faire, et non les contraires. Et alors là, moi, je me dis à ce stade,
si nous devons
y parvenir, si ce n'est que peut-être réviser la Constitution qui d'ailleurs s'est verrouée par l'article 220 de notre Constitution. Alors là, je me dis à ce stade, je pense qu'il faut s'en tenir à ce qui est prioritaire pour le moment. Qu'est-ce qui est prioritaire? On doit chercher à toucher des réformes à la population congolaise et laisser tout ce qui est accessoire, parce que ça ne peut rien profiter. C'est pourquoi j'aimerais qu'à ce stade, qu'on puisse réfléchir ensemble. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que les sénateurs soient élus seulement au suffrage direct comme les députés nationaux? Et où soit une autre possibilité, une des institutions, soit provinciale ou le Sénat, tombe
au détriment de l'Assemblée provinciale qui doit exercer ce travail-là. Comme ça, on essaye, parce que tout le monde s'en plaint pour le budget. Alors, moi, je me dis, toutes les démarches, parce que si il se fait que les sénateurs ont ce pouvoir-là, ça veut dire qu'ils auront mission de descendre dans les provinces et contrôler ce qui ne se faisait pas dans les temps. Vous voyez, les budgets, en même temps, nous sommes en train de déplorer comment est-ce que les institutions-là qui nous gouvernent sont presque budgétivores. Donc, ça veut dire qu'il prend les gros de la part, de la grande part, et ça veut dire qu'on est en train juste d'amener la population à s'appauvrir davantage, mais nous disons à ce stade, si nous pouvons conseiller à l'honorable Modeste Bahati, que d'ailleurs j'apprécie par ses initiatives, elles sont bonnes, mais est-ce qu'elles sont opportunes pour le moment? Est-ce que c'est le moment de pouvoir présenter ça? Parce que, Monsieur Gier, il faut que je vous dise quelque chose, parce que je suis en train de voir quand même, c'est bien, une révolution. Tous les députés, chacun voudra, n'est-ce pas, amener quelque chose, un projet de loi, c'est une bonne chose, mais nous sommes en train de voir que nous en avons de trop. Et la population congolaise est en train d'attendre juste ce qui l'intéresse, c'est présenter des situations qui peuvent profiter à la population plutôt qu'à des individus ou à une classe quelconque. Voilà ce que nous attendons. Ça veut dire trois choses. Premièrement, dans ces réformes, si elles passeraient, je pense que je ne sais pas, il faut peut-être aller au référendum ou par quelle magie, parce que je ne vois pas une seule brèche.
Parce que le 220, il est verrouillé. C'est l'article verrouillé.
Et donne le filo au sénateur d'agir sur ce point-là. Alors, vous savez, c'est aussi la gestion en province, ce que nous décrions, c'est qu'il y a une récréation notoire, pétition, etc. Et on se dit, il y a aussi en même temps les clics d'amis, parce que les gouverneurs, lorsqu'ils se présentent dans les assemblées, et lorsqu'il y a cette amitié, parce qu'on est d'un même groupe parlementaire, plutôt d'un même groupe politique, il se fait qu'il y a de la complaisance. Il y a de la complaisance. Et alors, moi je me dis, il faut que les Congolais, les politiques congolais réfléchissent là-dessus pour éviter cette récurrence de pétitions, mentions, de défiance, etc. Tout passera par une réflexion, donc c'est-à-dire autour de la Constitution. Parce que c'est elle, la mère, qui produit dans des centrales des lois.
C'est la loi fondamentale.
Pour amener notre pays à aller de l'avant.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, Amos, vous nous avez rejoint, vous êtes avec nous. Bonjour, Amos.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les invités de la radio Capi. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution après avoir écouté vos prédécesseurs? Mais il y a quand même Edmond qui a fait une proposition en disant qu'il faut carrément changer la tutelle. C'est vrai, si cette réforme passait, il faut penser plutôt à attribuer la tutelle des gouverneurs au ministre de l'Intérieur et celle de l'Assemblée provinciale au Sénat. Est-ce que partagez-vous cet avis?
Au fait, hier, moi, jusque-là, quand j'ai suivi cette réforme initiée par le président du Sénat, j'ai continué à me poser la question, comment ça va se faire? Mon prédécesseur venait d'évoquer notre constitution. En lisant la constitution du début à la fin, je ne vois pas comment le Sénat va parvenir à faire cette réforme. D'abord, moi, je pense que le Sénat est arrivé à ce niveau parce que les gens se disent sincèrement, et l'opinion le dit partout, on n'a jamais compris l'utilité du Sénat. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que le Sénat serait une institution budgétivore pour rien. Parce que depuis la ministre, on a connu le Sénat, je tiens à vous dire hier que vous pouvez arriver aussi que vous, personne ne connaît les sénateurs que nous avons eu à élire depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent quand ils battent campagne au sein des assemblées provinciales, ils sont élus, et on a toujours évoqué les questions de corruption, et ils partent. Au moment où on nous dit que ce sont eux qui représentent leur province au niveau national. Mais ils ne viennent pas en vacances parlementaires, on ne sait pas l'argent qu'ils touchent du contribuable congolais sert à quoi. Et une autre question que les gens se posent, vous êtes au courant que quand il y a une question qui divise le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte. Maintenant, les gens se posent des questions, à quoi sert réellement le Sénat? Moi, je pense que c'est à cause de toutes ces préoccupations, à cause de toutes ces questions, que non, le Sénat s'est dit non, finalement, on constate que comme la population commence à exiger que le Sénat soit effacé, qu'on voyait comment lui donner des attributions, qui reste là jusque-là flou, en analysant même l'initiative du président du Sénat, il y a du flou dedans. Parce qu'on ne comprend pas comment une seule institution sera contrôlée déjà par des autres, dont l'Assemblée provinciale et le Sénat au niveau national. Finalement, on va vivre quoi? Qu'est-ce que nous allons vivre réellement? C'est là que d'ailleurs, les gens se disaient comme les sénateurs semblent ne pas être directement redevables devant la population, qu'il serait mieux qu'ils commencent à être élus aussi au suffrage direct, pour que peut-être ils se sentent qu'ils sont redevables auprès de leurs électeurs, ce qui n'est pas le cas jusque-là. Moi, je pense que l'initiative, certains gens peuvent dire qu'elle est bonne, mais en analysant nos textes, c'est du flou. On ne comprend pas réellement à quoi cette initiative va aboutir. Parce que moi, je ne comprends absolument rien par rapport à l'initiative du Sénat JR.
Voilà, merci beaucoup à Amos d'avoir appelé 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs, JR Lungembu.
Nous poursuivons Parole aux auditeurs avec vous. Franck, vous nous avez rejoint. Bienvenue dans Parole aux auditeurs, Franck.
Bonjour, la carrière. Bonjour, les amis qui se sont déjà exprimés. Bonjour à l'invité, si vous regardez pour possible.
Vous avez la parole, Franck. Quel est votre avis?
Merci beaucoup. Je crois que nous devons commencer par rappeler que nous sommes un pays, un État démocratique. Et l'expression démocratique est toujours en droit de se schématiser de manière direct ou indirect par rapport toujours en avance, par rapport à tout ce que nous avons en face de nous comme objectif du développement. C'est pour dire qu'on doit commencer par saluer une telle préoccupation émise par le président du Sénat. Cependant, par rapport aux diverses raisons et réalités qui bloquent notre vrai développement dans notre pays, la République démocratique du Congo, moi personnellement, je doute fort que ça soit principalement lié à ce que le président du Sénat veut mettre est en train de viser ici. Parce que le vrai problème et le plus grand
politique, oui. Oui, parce que là, vous sortez entrecoupé, je ne sais pas, c'est par rapport à votre position. Allez-y.
Je suis chez moi au bureau. Je ne sais pas si ça va maintenant.
Oui, allez-y, ça va maintenant.
Ouais, merci beaucoup. Je disais que le problème que nous avons chez la République démocratique du Congo et le vrai problème se résume autour du manque de la vraie volonté politique. Et ce manque de la volonté politique se manifeste à travers le comportement de nos hommes politiques, de nos décideurs, de tous ces gens à qui certaines responsabilités clés sont confiées. Et du fait que nous avons des gens qui ne veulent pas se soumettre aux lois de la République, les mêmes lois de la République sont interprétées et appliquées selon les cantines, selon le sort du maire, selon les avantages et opportunités qu'elles apportent à tel ou à tel autre. Et personnellement, je trouve que on devait d'abord commencer par comprendre si la Constitution dans son ensemble est convenablement appliquée de A à Z, avant de penser maintenant à toutes ces réformes-là. Si nous devons relire d'abord la Constitution, la loi sur la décentralisation devait être mise en pratique, mise en vigueur 36 mois après, donc 3 ans après. Mais le démantèlement de nos provinces a été mis en pratique après combien d'années? Et si nous allons du côté des assemblées provinciales, comment ça fonctionne avec les exécutifs provinciaux? Il y a toujours des conflits. Si nous regardons maintenant la loi même sur la rétrocession, le gouvernement central rétrocède combien aux provinces pour leur plein fonctionnement? Et déjà à ce niveau-là, mon ami, nous voyons que les lois de la République ne sont pas convenablement appliquées. Et maintenant, si nous venons sur les lois budgétaires et les prévisions budgétaires, nous nous retrouvons dans des grandes des injustices. Il y a seulement 2 ou 3 institutions auxquelles on donne tout au détriment des autres. Et je pense personnellement que ce qui intéresserait la population congolaise à l'heure actuelle, c'est d'abord de combattre toutes ces injustices manifestes qui existent entre les différentes couches de la société. Parce qu'on ne peut pas se dire un pays de droit, un pays démocratique, un pays souverain, alors qu'on donne aux uns 10 à 15 000 dollars et aux autres on donne moins de 200 dollars. Et je crois que de telles lois, de telles réformes peuvent être nécessaires, mais dans un pays qui est vraiment dans des situations d'injustice, ça n'apportera rien. Donc le vrai problème, c'est le mental de l'homme qu'on doit réformer. C'est la mentalité de l'homme congolais, les politiques congolais, les dirigeants congolais, les citoyens congolais, les militants congolais. C'est d'abord au niveau de la tête. Je ne pense pas qu'on va seulement aller de réforme à réforme. On en a eu tellement depuis 2006 jusqu'à 2021. Si nous pouvons énumérer, répertorier le nombre de réformes qu'on a déjà eues, c'est des dizaines, mais ça porte quoi? Au lieu d'avancer de l'extérieur, nous nous rendons compte qu'on n'avance même pas. Au lieu de poser les vrais problèmes qui sont en face de nous, on va seulement chercher à toucher par le bout de la cuillère.
Et merci
je
beaucoup.
Crois que le plus grand problème, c'est d'abord de combattre les injustices, de repenser les sociales. Et pour repenser les sociales, il faut voir qu'est-ce qui pose problème. Il y a des anti-valeurs,
voilà,
il y a
merci de la beaucoup, Franck.
Il y a des injustices. Alors, il faut voilà. Réformer la tête. Et pour
merci.
Réformer la tête,
il faut d'abord réformer la tête et non la réforme du Sénat. Merci. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. Alors, Simon, vous êtes avec nous, vous nous avez rejoint, Simon. Bonjour.
Oui, bonjour à vous, JR, et bonjour à nos auditeurs éparpillés à travers le monde.
Voilà, l'idée du président du Sénat, c'est qu'il faut rapprocher le Sénat du gouvernement provincial, car on ne peut pas, selon lui, parler de la gestion des provinces sans que le Sénat y soit associé. Est-ce que vous partagez cet avis, Simon?
Oui, il a raison, mais moi je vais plus loin que ça. En fait, le mal des pays africains, c'est que parfois nous ne comprenons pas ce que nous faisons et ce que nous mettons en place. Vous allez constater avec moi que l'Afrique vit au rythme de l'Occident. Vous allez voir que les institutions telles que placées en Occident, nous nous copions avec les mains, nous les plaçons aussi chez nous, sans se rendre compte des réalités des pays occidentaux et des réalités des pays africains et aussi de la République démocratique du Congo. Je prends pour exemple, avant de parler du Sénat et de cette réforme, vous allez voir, les pays occidentaux ont opté pour un mandat de 5 ou 4 ans. Mais ils ont les routes bien faites, les hôpitaux à la hauteur des écoles bien structurées, il y a des sociétés, il y a des industries partout. Et nous, nous copions l'Europe, nous prenons les 5 ans comme eux. Sans se rendre compte que nous, nous avons des routes déjà délabrées, des hôpitaux inexistants, des écoles. Et d'ailleurs, vous savez, ça crée problème jusqu'aujourd'hui. 1000, oh, on ajoute 1000, on ajoute 100. Et les industries presque quasi inexistantes. Mais nous prenons le même nombre d'années, nous les mettons pour un siècle. C'est pour dire que l'Afrique copie aveuglément l'Occident pour faire, pour le Sénat. Moi, je pense qu'après 3 cycles électoraux déjà, 2006, 2011, 2018, maintenant 2018, 2023, il est temps qu'on puisse initier des grandes réformes, des réformes sérieuses. Et la Constitution mérite d'être revue parce que cette Constitution a été élaborée. Sinon, nous sortions d'un état de guerre. Il fallait apaiser les esprits des uns et des autres. Et maintenant, après, je crois, 3 cycles, nous pouvons maintenant faire une Constitution responsable et de confiance des uns et des autres. Parce que le Sénat, quand vous le voyez, il remplit en second lieu le rôle du Parlement dans un pays où nous n'avons pas l'argent. Le budget peine encore à atteindre même 7 milliards en termes de réalisation. Le budget, nous n'avons pas l'argent partout. Mais nous prenons les institutions, telles que ça se vit dans les pays occidentaux, nous les plaçons. Sans nous rendre compte que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de société. Il serait mieux de supprimer totalement le Sénat et orienter les
voilà.
choses autrement.
On voilà. Merci
avec
beaucoup.
Le Parlement, peut-être en ajoutant un peu le nombre de sièges, évidemment, l'Afrique, ou sinon les ratios par nombre. Au lieu de 7 personnes pour un député, on peut encore réduire. Et on a mis le Sénat. Nous avons un Parlement qui est, dont les députés sont directement redevables à nous. Ça sera une bonne chose. Parce que je ne vois pas vraiment l'importance du Sénat dans ce sens que
même les députés provinciaux ou les assemblées provinciales de la RDC, vous avez suivi récemment, ils nous ont été même en voie de faire des grèves. Ils n'ont jamais été payés autant de mois, alors que le Sénat, l'émanation, est là. Donc, on nous fait préférer. Et depuis longtemps, il y a des mêmes choses qui se passent. Moi, je pense qu'on peut supprimer le Sénat et que nous restons avec les députés élus universellement et les gouverneurs élus universellement. Nous-mêmes, nous devons être conséquents des autorités qui doivent nous gérer. C'est vrai, c'est qu'il a, il a fait un constat, mais ce constat qu'il a fait, cette réforme qu'il a fait là, c'est par rapport au nombre et sinon à l'expérience. Si pas l'expérience, par rapport à ce qu'il a remarqué au sein du Sénat depuis son existence en 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et vous verrez que sur le plan impact budgétaire, le Sénat est très avancé. Vous voyez, il demande, même je crois dans les budgets actuels, c'est 13 000 $, alors que les députés c'est 10 000. Et moi, enseignant, c'est 127 $. Moi qui l'ai reformé, c'est 127 $ qu'on me donne parce que j'ai formé les sénateurs et les députés. Alors vous voyez tout ça, ce sont des charges inutiles pour lesquelles le pays ou la nation peut s'en en passer et ça ne va faire tomber aucune chose. Au contraire, nous allons gagner en termes d'argent ou en termes de réserves du budget. Donc moi je pense que il y a des choses, il est temps de passer à la réforme ou à la révision de la Constitution avec l'esprit vraiment équilibré, puisque la fois passée, on l'a élaboré avec l'esprit déséquilibré comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait revoir par rapport à nos réalités, à nous. Et ne plus copier l'Europe, parce que l'Europe, l'Occident est plus avancé que nous.
Voilà, si merci. Copions, merci beaucoup.
Nous serons bloqués nous-mêmes.
Merci.
Donc, on puisse supprimer tout simplement le Sénat.
Le Sénat.
Et puis donner notre
responsabilité. Au lieu de chercher de renforcer les liens entre le Sénat et l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, Simon Tsiloulou. Alors, Alain, on va terminer avec vous. Alain, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Alors, le souhait du président du Sénat, c'est de rapprocher davantage le Sénat de l'Assemblée provinciale. Alors, cette réforme, comme l'avons dit, c'est pour permettre à ce que le Sénat soit associé, comme elle est l'émanation, à la gestion des provinces. Comment réagissez-vous, Alain?
Bon, d'abord, je tiens à préciser que je suis de ceux qui pensent que nous devons changer de constitution justement parce qu'il y a des choses qui énervent et qui bloquent le fonctionnement régulier de l'État. Sur ce point-là, je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de parler de la suppression ou sinon de la suppression du Sénat, d'autant plus que nous avons d'abord opté pour le régionalisme constitutionnel, dont le maître mot reste la décentralisation. Et dans le principe de la décentralisation, lorsqu'il y a décentralisation, on doit arriver à renforcer le contrôle. Voyez-vous? C'est ce qui fait que le constituant a voulu à ce que les provinces, tout en étant autonomes, mais qu'il y ait une sorte de passerelle sur le plan fonctionnel entre l'État, le gouvernement central et les provinces. C'est ce qui justifie la création du Sénat. Parce que si vous lisez très bien l'article 104 de la Constitution, il est clairement stipulé que les sénateurs sont les représentants de province. Ce qui veut dire quoi? Les députés nationaux qui sont élus au suffrage universel direct ne sont pas les représentants de la province, mais sont plutôt les représentants du peuple. Alors que les sénateurs sont les représentants de province. Ce qui sous-entend que les sénateurs sont là justement pour harmoniser le point de vue du gouvernement central et le gouvernement provincial. C'était ça l'idée originelle du constituant. Et fort malheureusement, dans certaines dispositions, on a donné l'impression comme si le Sénat était au service du gouvernement central. Parce que le Sénat, en réalité, en tant que représentant de province, au niveau de la superstructure, c'est-à-dire au niveau du gouvernement central ou des institutions nationales, devait en principe participer à toutes les réunions qui impliquent les provinces. Et s'il y a un problème, un facteur bloquant au niveau du fonctionnement des provinces, eh bien, le Sénat, en principe, devait s'impliquer justement pour donner des orientations. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui s'est fait sous base de la révision constitutionnelle intervenue en 2011, je crois que nous avons changé la philosophie de la constitution de départ. En principe, au lieu d'associer le vice-premier ministre en charge de l'intérieur ou le ministre en charge de l'intérieur, on devrait plutôt associer le Sénat pour décanter les situations. Mais fort malheureusement, dans notre pratique, dans le fonctionnement des institutions, on a semblé écarté pendant longtemps. Il vous souviendra que Papa Kengo, alors que le président du Sénat, avait intervenu sur la question de la province de l'Équateur, le Grand Équateur. Il avait dit qu'effectivement, eux aussi avaient un droit de regard sur le fonctionnement des provinces. Et fort malheureusement, dans la réplique, le gouverneur Baïndé a donné l'impression comme si le Sénat n'avait rien à dire par rapport au fonctionnement des institutions provinciales. Et pourtant, c'est faux. Je renvoie, comme je l'ai dit, j'ai cité un article de la Constitution, l'article 104, qui stipule clairement, ils sont l'émanation, ils sont les représentants. Les représentants, en tant que représentants, ils ont droit à la parole, ils ont droit au chapitre, et de donner des orientations afin de faire en sorte qu'il y ait harmonisation entre les politiques publiques conçues au niveau de province et dans les politiques publiques conçues au niveau national.
Voilà, encore faut-il bien définir le principe de cet accompagnement du Sénat à l'endroit de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, Alain Bolodjoie, et c'est par ici que nous mettons un terme à cet échange citoyen. Merci d'avoir passé 57 minutes interactives ensemble avec nous, ici au pays et à l'étranger. Merci de l'intérêt que vous apportez à nos différents débats. À demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs.